con par rapport à ces choses.
Alors,
Mais si on suit les gens,
donc
les
Paul et ses trois
montagnes,
compagnons et trois de
bah,
ses
ils sont
compagnons
sportifs. Mais les
missionnaires.
sportifs.
Et puis, on avait vu
Mais
un
à
petit peu
l'époque,
le
également,
parcours de Paul, hein,
c'était.
qui était
Mais
Paul.
c'est
Il
pas l'autre
était
chose.
de Tarse,
Rameau
qui était une
pourtant, c'est
province
un.
romaine. C'est pour cette raison qu'il avait le
En
statut de
Turquie,
Romain, en fait, hein. Il n'avait pas payé ce statut-là,
Iran, ou je ne sais pas.
mais il l'avait
J'ai
de par
évoqué.
ses origines.
Peut-être,
Et c'est
de
quelqu'un
temps en
qui
temps, sur un
devait
chariot,
être
j'en sais rien.
d'un
Mais
quand même assez bon
quelqu'un
niveau
calculé,
social,
c'est
parce
vrai,
que assez jeune, il a
un
été
voyage d'Orient.
envoyé par ses
Et quand
parents,
même,
on peut
tous ces
s'imaginer, hein,
dix
c'est
ans
ses
aussi
parents,
ici,
mais à
et
Jérusalem,
en
pour
Syrie,
suivre tout l'enseignement rabbinique. Il a eu un des plus grands rabbins de son temps, qui était Gamaliel. Et
Non,
puis, Paul
Ah, mais c'est sûr que les
a
voyages,
eu
bah, des fois,
un
c'était
héritage
des longs
dans le
périples, hein.
judaïsme
Non,
assez
c'est clair,
fort.
hein.
Mais en
C'est
même temps,
comme
en
les
venant
premiers
de
voyages
Tarse,
missionnaires
Tarse était
en
une
Chine, hein,
ville
par le fameux
quand
missionnaire.
même assez renommée
Patientez,
au
voilà,
niveau
taille de la surface
de
de
la
son antenne.
philosophie.
Physique.
C'était des écoles qui
Oh là là,
rivalisaient avec Athènes et
c'était
Alexandrie,
pas
hein.
avec
Donc c'est vrai
des
qu'on
crapauds
pense
d'aujourd'hui, hein.
plus, si on pense aux philosophes, on va
C'était
peut-être plus vite
la voile et
penser
à vapeur, hein,
aux
comme
intellectuels
comme
de
se dit.
l'époque de la Grèce antique, on va peut-être plus vite
Hein,
penser à
c'est quand
Athènes
même
et puis à
effrayant.
Alexandrie, hein, qui étaient deux grands
Il a
centres.
failli passer la nuit plusieurs fois, hein,
Ben,
parce que
en
c'est pour ça
fait,
que des fois je
Tarse,
cherche,
en était
mais là
aussi
c'est
un
vraiment
grand.
pas mal.
Hein.
Mais je
Donc,
peux les
c'était
entendre.
quelqu'un d'instruit, on l'a vu aussi
Mais
pourquoi,
c'était
parce
aussi
que
une époque où
il
c'était le
connaissait
bon
le
moment.
droit. Il
Parce qu'il
connaissait
y
le
avait
droit
la
romain, il
pax
savait quels
romana
étaient
qui
ses droits, il
permettait
savait
aux
se
gens de
défendre dans certaines
voyager,
situations. Donc, une
de
personne qui
faire
n'est
ces
pas
longues
instruite est
distances,
incapable de
ça
défendre
permet
de
aussi à ce
défendre
que
ses droits. Hein.
l'évangile puisse se
Et
répandre
puis, Paul va
localement
rapidement
et
intégrer
romainement.
le
Voilà.
Sanhédrin
Les routes romaines,
de l'époque. Hein.
mais les voies romaines,
Il est
elles
dit
étaient.
qu'il apportait son suffrage, même quand on voulait
Ouais,
faire mourir
c'était
des
pas
gens.
du super
Donc,
prédicat
même
non
en
plus, hein,
étant
faut pas
jeune,
s'imaginer
il a
les
intégré
époques
le
d'aujourd'hui.
Sanhédrin. Et ça, c'était aussi un signe qui
C'était
devait
comme
faire
il y avait
partie,
les
certainement, d'une
pavés,
bonne
oui, mais
famille.
dans
Parce
les
que
grandes
s'il
villes.
tu
C'est
rentres
vrai.
pas comme ça dans le Sanhédrin, et puis
Entre
si t'es
deux,
jeune, il y
si
avait
t'es pas
par
peut-être
endroit,
passe
oui, mais
3,
si
souvent on était plutôt
tu
dans
viens
les
d'une bonne
artistes.
famille, hein. En tout cas, il y avait bien sûr tout son
On retrouve,
parcours
hein, des voies
de
romaines, hein, des longues
formation
marches, je veux
aussi
dire, faut le
dans le
savoir.
milieu avec Gamaliel,
Mais
mais ça fait peut-être pas tout. Ou
les,
elle était
exactement, Dieu,
certainement d'une
c'était des
famille
fois aussi,
renommée pour
hein, et avec
pouvoir
des
ainsi
carrières, des
entrer
choses comme ça.
à un
Mais
jeune
il y
âge
a la grande
dans
partie
le
n'était pas
Sanhédrin. Et
romaine.
puis on
Il y
sait
avait certainement des chemins, ce qui voulait dire que
Paul,
ils venaient,
ben à l'époque,
voilà, ils n'avaient
Saul,
pas
en fait,
des
hein,
chaussures
a eu
nécessaires.
beaucoup de zèle pour
Voilà.
persécuter l'Église, et puis qu'il va se convertir sur le chemin de Damas, et que
Alors, je mets
Paul
stop.
dira qu'il considère toutes ces choses comme de la boue, afin de gagner le Christ, hein. Toutes ces choses de son judaïsme du passé, de son zèle, ben pour lui, c'était comme de la boue. Et bon, je ne vais pas relire là tout, hein, mais on avait entre autres une attestation aussi qui montre que Paul était quelqu'un quand même d'érudit dans ses connaissances par rapport à la spiritualité, dans ce que dit Pierre, dans la deuxième épître de Pierre. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui était donnée. C'est ce qu'il a fait dans toutes les lettres, où il parle des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Hein? On voit que Paul était un homme de sagesse et que certains n'arrivaient pas à comprendre ses écrits déjà à son époque. Donc ça montre aussi que ben pour nous, hein, ça faut que le Seigneur nous inspire pour comprendre aussi la pensée de l'apôtre Paul. Et puis, après sa conversion, il va aller à Damas, il va aller dans le désert aussi pendant 3 ans, pour ensuite retourner à Jérusalem. Mais à Jérusalem, il va pas rester longtemps parce qu'il sera persécuté par les hellénistes, et il va devoir fuir à Césarée, et de Césarée, il va aller à Tarse, et donc retour dans sa ville natale. Et Tarse, il va faire 10 ans là-bas. 10 ans avant que le deuxième personnage qu'on avait un peu étudié, Barnabas, l'invite. Hein. On voit qu'entre sa conversion, alors que c'est un érudit, le début de son œuvre avec Barnabas, il va s'écouler une période de 13 ans. C'est long, hein? On ne s'imagine pas, hein? Mais c'est long. Il y a 13 ans qui se sont écoulés entre ces deux moments. Et puis, Barnabas, en fait, va connaître Paul lors de son premier séjour à Jérusalem. Et puis, Barnabas, vu qu'il y a toute une diaspora, comment dire ça, il y a des hellénistes à Antioche qui se convertissent, beaucoup de Grecs vont se convertir. Et puis, Barnabas est débordé par le travail. Et puis, il pense à Paul. Il se dit, ah, mais il faut que j'aille chercher Paul. Parce que Paul, il pourrait vraiment être utile dans ce travail-là. Parce que Paul, il a une grande connaissance et du monde grec et du monde juif. Et il pourrait vraiment aider à ce travail. Et puis, on avait vu que Barnabas était un homme qui faisait confiance aux gens. Comme dans Actes 4, verset 37, où il est dit... Il vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Hein, on voit que Barnabas, il fait confiance. Il fait confiance aux gens qui l'entourent. Ça, c'est un signe de confiance. Il vend un champ et il apporte la somme aux pieds des apôtres. Il devait se dire, ben, de toute façon, je sais que ces gens-là vont bien gérer cet argent. C'était un de ses traits de son caractère. Hein, mais des fois... Un point fort peut aussi être un point faible. Hein. Faire trop confiance, ce n'est pas non plus une bonne chose. Et puis, on le verra un peu par la suite, d'ailleurs. Et Barnabas, on avait vu, c'était un nom araméen qui veut dire « fils de prophète » ou « fils de la prophétie ». Donc, c'est quelqu'un qui exhortait les gens. Il était reconnu par les apôtres pour son discernement, son don de prophétie et d'encouragement. Donc, qui voudrait pas travailler avec une telle personne, hein? Je pense que c'était agréable de travailler avec un Barnabas. Comme je le disais juste avant, c'est bel et bien Barnabas qui, quand Paul fera son premier séjour à Jérusalem, c'est Barnabas qui va introduire Saul auprès des apôtres, parce que les chrétiens de Jérusalem, ils étaient méfiants par rapport à ce Saul parce qu'ils le connaissaient. Et puis Barnabas, il va faire confiance, il va faire confiance à Saul, et en se disant, non mais cet homme, je crois qu'il a vraiment rencontré le Seigneur. Ce qu'il dit, on voit qu'il y a changement complet, il prêche l'évangile avec vigueur, il contredit les juifs, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est pas possible, c'est pas juste du cinéma pour essayer de nous attraper encore plus de personnes de nos églises et les mettre en prison. Donc voilà. Hein. Mais on voit qu'il y a quand même toutes ces années qui défilent juste à ce que vraiment la connexion se fasse pour un travail en commun avec Barnabas et Saul. Et là, ils vont travailler une année à Antioche. Hein. Après cette année de travail ensemble, il y aura une famine qui aura été annoncé sur la Judée, et les chrétiens dans la région d'Antioche vont faire une collecte et ils vont amener l'argent avec, qui aura cette mission d'amener l'argent, en fait, c'est Saul et Barnabas. Et puis, ils vont faire ce service-là, hein, en allant à Jérusalem, ils vont aller déposer l'argent, et sur le chemin du retour, en fait, ils prennent avec eux le deuxième compagnon d'œuvre de Saul, là qu'on va étudier, Jean surnommé Marc, qui était un juif. Alors, on va passer à la suite, donc par rapport à ce Jean surnommé Marc, et puis on voit un premier passage où on a une indication pour cet homme, c'est dans Actes 12. Acte 12, verset 12 et 13. Acte 12, les versets 12 et 13. C'est l'histoire de Pierre qui est miraculeusement libéré de sa prison. Hein. Il y a un ange qui vient le délivrer. Et puis, il se retrouve dans la rue. Et une fois qu'il se retrouve dans la rue, tout d'un coup, il réalise que ce n'est pas un songe, que vraiment ce qui s'est passé, ça s'est passé. Et puis voilà. Hein. Alors, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc. Hein, voilà notre personnage, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Bon, on va pas lire la suite, hein. Mais juste ici, on a déjà quelques indications intéressantes par rapport à Jean, surnommé Marc. Il était où? Dans une maison qui devait être assez grande. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes étaient réunies. Hein. Donc ça devait être une maison quand même assez importante. Et puis, deuxième signe quand même un peu de richesse de cette famille-là, ils avaient une servante nommée Rhode. Les gens entre guillemets, de la couche sociale basse, ils n'avaient pas de servante, c'est pas possible. Hein, c'était déjà les gens qui avaient un certain standing de vie dans l'Antiquité qui pouvaient avoir une servante à la maison, hein, qui s'occupe d'aller ouvrir la porte, etc. Elle n'était pas là uniquement pour travailler dans les champs, mais c'était une femme, une gouvernante, hein, peut-être. Hein. Voilà, hein, c'est des fonctions qui existaient déjà dans l'Antiquité. Hein. Des personnes qui étaient dans un rôle de gouvernant ou gouvernante. Donc on voit que c'était quelqu'un qui devait venir d'un arrière-plan d'une famille assez aisée. Alors, Jean, ça veut dire l'Éternel a gracié. C'est un prénom qui est d'origine hébraïque. Et Marc, ça veut dire une défense, un grand manteau. Et puis là, c'est un prénom d'origine latine. Donc, on a un peu comme Saul et Paul, hein, on a deux noms. Parce que Saul, c'était le nom d'origine hébraïque, et puis Paul, c'était le nom d'origine latine. Hein. Donc, quelqu'un qui avait un peu un double nom comme ça, il venait certainement d'une famille aussi assez importante. Parce que d'avoir un deuxième prénom qui tire une origine latine, je pense que c'était quand même un peu chez les gens cultivés. Bon, je ne suis pas un spécialiste, un historien d'antiquité, mais on peut s'imaginer ça. On peut s'imaginer que les gens de la basse couche, pardon, donnaient pas un nom d'origine latine à leurs enfants. C'était quelque chose vraiment, c'était un petit peu l'élite pour, voilà, il était bon d'avoir connaissance aussi du grec et de ces choses-là. C'était pour la culture générale. Tout le monde n'avait pas ce genre de pensée qui animait leur esprit. Donc voilà un petit peu sur ce qu'on peut savoir sur les origines de Jean surnommé Marc. Et puis si on voit un tout petit peu plus loin, acte 12, verset 25, là c'est ce qu'on parlait aussi avant, c'est Barnabas et Saul qui, venant d'Antioche, amènent cette offrande. Hein. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, mais en fait ici c'est de leur service, si on traduisait un peu mieux, on suivait un peu mieux le grec, s'en retournèrent de Jérusalem en menant avec eux Jean surnommé Marc. Hein? Donc c'est au retour, ils le prennent avec eux. Pourquoi? On ne sait pas vraiment, mais ils avaient sûrement quelque chose en tête, il y a sûrement eu des partages, et puis il y avait quelque chose hein, qui se mettait gentiment en route. Et puis on voit qu'il va y avoir le départ pour le premier voyage missionnaire. Hein, vous connaissez l'histoire. Le Saint-Esprit est là. Et puis, le Saint-Esprit demande, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, je suis là, 13, verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas, je continue, là, verset 4, et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Hein? On retrouve notre Jean qui fait partie du voyage. Et puis ensuite, ils vont confronter un homme. Il y a comme une confrontation spirituelle hein, avec un magicien qui était un faux prophète qui s'appelait Bar-Jésus. Et puis, verset 9, je lis. Alors Saul, appelé aussi Paul, et là c'est, on verra, c'est la première fois qu'on va l'appeler Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui, hein, sur ce magicien, et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute geste de justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur. Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut étant frappé de la doctrine du Seigneur. Suite à ça, qu'est-ce qui se passe? Paul et ses compagnons s'étaient embarqués à Paphos. Donc, ils sont partis d'Antioche, ils sont allés sur l'île de Chypre, ils vont traverser l'île de Chypre. Et ils vont ressortir de l'île de Chypre, ils vont reprendre le bateau, ils vont sortir à l'opposé de là où ils sont rentrés. Et puis, ils vont retourner en direction du continent. Puis voilà ce qui se passe. Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge, en Pamphylie. Donc là, ils sont de nouveau sur le continent. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Hein? Donc, ils n'ont pas fait route bien longtemps. Jean, assez rapidement, s'est séparé d'eux et il retourne à Jérusalem, la ville donc, d'où il venait, tout simplement. Hein. Donc, on voit que ce voyage, premier voyage missionnaire, où était quand même présent déjà ce premier disciple. Hein, c'est pas rien quand on fait un premier voyage missionnaire et puis on forme une équipe. Et puis, ben, malheureusement, il y en a déjà un qui nous quitte. Mais bon, on ne sait pas vraiment les raisons.
Pourquoi, ouais.
On ne sait pas vraiment pourquoi, en effet. On peut dire, est-ce que peut-être, je dis bien peut-être, est-ce que c'est lié à l'événement qui s'était passé par rapport à ce magicien, et puis qu'on voit la parole qui était très forte de Saul, hein. Est-ce que lui était choqué, puis s'est dit non, mais quand même, on ne peut pas causer comme ça au nom du Seigneur. On ne sait pas, hein, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, ils prennent le bateau ensemble, et puis lui, une fois qu'il est sur le continent, il fait demi-tour, il rentre sur Jérusalem, alors que Paul et Barnabas vont continuer leur œuvre. Donc, en effet, un peu mystère. Pourquoi il y a cette séparation, on ne sait pas vraiment. Mais je ne pense pas que c'était la volonté du Seigneur que ça se passe de cette manière-là. Donc, c'est vrai que c'était un compagnon d'œuvre temporaire. Oui, tout à fait, hein, on peut le dire. Et puis, il réapparaît un peu plus tard.
Ah bon, il réapparaît.
Il réapparaît, oui, oui, oui. Ouais. Je voulais faire un peu durer le suspense quand
ouais,
même.
Ouais, je
hein.
me disais que...
Jean, qui, pardon, acte 15. Ah oui, juste avant ça, c'est étonnant parce que c'est à partir de cet événement qu'un Saul confronte... l'esprit qui est sur ce faux prophète, c'est à partir de là qu'on ne va plus appeler Saul, mais Paul. Hein? C'est à partir de cet événement. C'est étonnant. Comme pour dire, ben maintenant, tout son passé qui était en lien avec ses origines hébraïques, c'est derrière. Il y a un nouvel homme. Ce nouvel homme, il est en Christ et il s'appelle Paul. Et puis, on ne verra plus le nom de Saul hein, dans les Actes des Apôtres. On verra simplement quand il sera parlé de sa vie passée, d'avant sa conversion. Mais pour parler de son activité, on verra plus ce nom de Saul. Il y a comme un tournant dans cet événement. Donc, il y a quand même quelque chose qui a dû être fort. D'ailleurs, ouais. Le proconsul se convertit.
Non, hein. C'est écrit ici, rempli de l'Esprit Saint. Alors, Paul, au plus tôt, Saul, au plus tôt Paul. Donc, à partir de là, on l'appelle
ouais.
Paul.
Ouais.
Paul.
Ouais. Il y a vraiment quelque chose d'assez fort qui a dû se passer. Le bruit a peut-être couru aussi de ce qui s'est vécu. Ben, c'est clair, hein, t'as un gars qui part en tâtonnant, c'est pas tous les jours. Hein, il reçoit une parole, le gars il est aveugle. Et puis un proconsul qui se convertit au Seigneur, ça a dû marquer les gens à l'époque. Hein. Et puis on va plus l'appeler Saul. C'est vraiment cet homme-là qui a persécuté l'Église, c'est fini maintenant. Il est en Christ et il avance avec son Dieu. Alors, acte 15, verset 36, où on va retrouver notre ami Jean, surnommé Marc. Acte 15. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit recommandé par les frères et la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Donc on voit, il y a un clash là. Pourquoi? Parce que Barnabas veut reprendre avec lui Jean surnommé Marc. Et puis Paul dit non. Hein, il dit non parce qu'il dit que ce n'est pas convenable. La personne nous a quittés. Je pense que ce n'est pas bon de refaire avec équipe avec Jean. Et puis on voit qu'il y a une tension qui est forte. Et de là, Barnabas va se séparer de notre ami Paul. Et puis, il va prendre avec lui Jean surnommé Marc. Mais en fait, on ne va plus rien apprendre de ces personnes. Si après, vous regardez dans la suite...
Marc, si.
Alors justement, c'est ce qu'on verra. On va plus rien entendre parler au niveau de l'œuvre missionnaire.
Mais c'est le même?
Alors justement, on verra. Ouais, c'est bien. Vous connaissez un peu hein, déjà l'histoire. On verra tout seul. Je vous dis tout de suite, je n'ai pas la réponse. Hein? Mais on va débattre sur le sujet, ça tombe bien. Alors, une fois, je crois, Paul, je ne sais plus dans quelle lettre, il parle de Barnabas, mais pas par rapport à l'œuvre missionnaire qu'il aurait continué. Donc, il y a comme quelque chose qui s'éteint par rapport à Barnabas, la suite.
Oui, c'est impossible.
Elle disparaît à nos yeux. Et puis, on voit que quand même, Paul fit choix de Silas et parti recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Hein. Donc, les frères étaient quand même du côté de la décision de Paul. Hein. Il y avait quand même l'Église qui était là et qui a appuyé à avoir le choix de Paul. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines personnes, des commentateurs bibliques, etc., théologiens, qui vont dire, suite à cet événement, qui vont dire, Paul était intransigeant, il manquait de sagesse.
On nous amène à penser à ça.
Voilà. Hein, mais moi, je ne pense pas. Moi, je ne suis pas dans cette lignée-là. Je pense que Paul avait fait le bon choix. On voit, il est recommandé par les frères. L'Église était derrière
alors,
cette décision.
Alors, il devait savoir
décision.
Quand même un peu plus voilà. Que de cet événement
ouais.
Pour réagir ouais. Comme ça, qu'il ne le veut plus.
Il y avait
parce
certainement
sinon,
quelque chose
on donne quand même une deuxième chance à quelqu'un. Hein. C'est que s'il a été que impressionné, ce n'est pas ça qui va faire que Paul va décider de ne pas le reprendre.
Tout à fait. Et puis après on peut donner plein de raisons hein. On les connaît pas donc on sait simplement que Jean surnommé Marc venait certainement d'une famille aisée. Est-ce que l'attitude de Jean manquait de respect envers ses autres frères d'œuvre? Je sais pas, on sait pas hein. Oui, mais en tout cas ils se sont séparés. Puis au moment où Barnabas veut reprendre cette personne dans l'équipe, Paul s'y oppose. Alors, qui est-ce que, un peu, petite question qu'on pourrait débattre, qu'aurait dû faire peut-être Jean-Marc pour que Paul l'accepte dans leur team à nouveau hein? Qu'est-ce qui a manqué?
Je pense la constance, parce que je pense qu'il devait être beaucoup plus jeune. un peu comme Timothée. Enfin, c'est une supposition. Hein.
C'est, pas une c'est bien possible qu'il était jeune, vu qu'il était dans la maison de sa maman. Là, ouais.
Voilà, donc il va chercher Pierre, trop jeune, et puis qu'il était un peu inconstant dans la voie, disons, déterminée de Paul.
Oui, il manquait d'expérience peut-être aussi.
Aussi, évidemment. Ouais, ouais.
Ouais. Ça peut, ouais, en effet. Est-ce que vous pensez à autre chose? Moi, j'avais pensé à quelque chose comme ça, hein, la repentance. Ah. Peut-être que Jean n'a pas dit, ouais, je m'excuse, je me suis trompé, j'ai pris mon chemin, mais ce n'était pas celui du Seigneur. Bon. C'est comme toujours, hein, c'est le silence, donc on peut interpréter comme on veut. La véritable raison, c'est un peu comme un avion, quand on n'a pas retrouvé la boîte noire, on ne sait pas quoi. Donc là, la boîte noire, elle est perdue. Un jour, on saura, mais voilà. Alors peut-être la repentance. Hein. Et puis, en effet, plus loin dans la Bible, on retrouve un certain Marc, cousin de Barnabas, hein, dans l'Épître aux Colossiens 3, verset 10, où Colossiens, bon, on peut juste regarder, Colossiens 3, verset 10, c'est pas ça, je me disais, j'espère que ma référence est juste. C'est pas ça, zut. Regardez si c'est pas 2,10.
C'est pas 4,10.
Peut-être, ouais, c'est pas si. Ouais, ça doit être ça.
4,10,
alors bingo. Voilà. Alors, Colossiens 4,10. Oh là là, hein, quel nom, hein. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Hein? Donc, Paul qui dit de bien accueillir un certain Marc.
Ils disent ici qu'il se serait réconcilié avec l'apôtre.
Voilà, alors justement, on va discuter de tout ça. Mm-hmm. Alors, en Philémon aussi, au verset 24, on retrouve. Alors, Philémon, c'est avant Hébreu.
C'est juste après, ouais. Je crois bien. C'est tout petit, hein. C'est
ouais, il y a juste un chapitre. C'est après Tite.
Tite Philémon.
Alors, au verset 24. On voit qu'il est compagnon d'œuvre de Paul, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Donc on voit là. Et puis on le voit aussi dans 2 Timothée 4, verset 10. Alors là, c'est un petit peu avant. 2 Timothée 4, verset 10. 2 Timothée 4, verset 10. Et puis, c'est pas ça.
Oui. Si, si.
C'est juste?
Si, si. 11.
Ah ouais, c'est vrai. Alors, ouais, c'est ça. Alors, Luc, seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Hein? Il m'est utile pour le ministère. On retrouve un certain Marc qui est utile pour le ministère de l'apôtre Paul. Et puis, on voit encore un Marc ailleurs dans 1 Pierre 5, verset 13. Donc là, on va après l'Épître aux Hébreux, 5, verset 13. 1 Pierre 5, 13. L'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Hein? Le fils de Pierre. Mais ce n'était pas son vrai fils, c'était dans un sens spirituel. Donc, c'est vrai qu'avec ces passages-là, on pourrait penser qu'il y a eu réconciliation, qui a eu une fin heureuse, happy end, hein, façon Hollywood. On aime bien Hollywood, hein, que ça finisse positivement en général. Hein. Peut-être moins maintenant, mais moi que j'étais gamin, même après, les films finissaient toujours bien. Il y avait toujours le gentil, c'est toujours celui qui gagnait, le méchant, c'est toujours celui qui payait. Là, il y aurait comme une fin heureuse. Et puis, certaines personnes vont dire aussi que l'évangile de Marc aurait été écrit par ce Jean surnommé Marc. Parce que, bon, on ne trouve pas d'attestation dans l'évangile de Marc, de nom, qui a écrit cet évangile. Mais en fait, c'est le cas dans tous les évangiles. Hein, il n'y a aucun évangile où il y a le nom de celui qui a écrit. Donc, on ne peut pas dire... Oui, ça pourrait en effet être Marc. Hein, on ne peut pas dire que... Non, vu qu'il n'y a pas de nom, c'est pas possible de dire que c'est Marc. Voilà. Donc, voilà, on est face à une situation quand même où on est un petit peu dans l'inconnu. Moi, personnellement, de ce que je connais de l'évangile de Marc, je sais qu'il est écrit dans un grec assez basique. Et puis, ce Jean surnommé Marc, ça devait quand même être plutôt quelqu'un d'assez instruit. Alors, est-ce que vraiment c'est cet homme-là qui a écrit l'évangile de Marc? Je ne suis pas hyper convaincu, mais je pense que beaucoup de théologiens vous diront ça, hein, que ce Marc-là qui s'est réconcilié avec Paul et tout. Mais c'est peut-être le Marc-là, en effet, qu'on vient de lire les différents passages, c'est peut-être bel et bien ce Marc-là qui a écrit l'évangile de Marc, mais ce n'est pas forcément le même que ce Jean surnommé Marc. Parce que dans les passages qu'on vient de lire, il n'est jamais reparlé de ce Jean surnommé Marc. Mais... Après, on ne sait pas, ça c'est des interprétations, hein. Ça c'est vraiment... Et puis, c'est des points où on n'a pas forcément besoin d'être en accord parce qu'on n'est pas face à quelque chose de doctrinal qui est d'une première importance.
Ah, qui est important, hein,
ouais. Ça va rien changer.
Ici, j'ai une notation qui dit que peut-être il était parenté avec ce Barnabas.
Oui, c'est cousin.
Oui, ils sont cousins, hein, là, la Bible dit, ouais. Ouais. Ouais, il est cousin
peut-être
avec...
Peut-être qu'il y avait une influence aussi à cause de ça, non?
Aussi, hein, peut-être, en effet, ouais. Ça pourrait être aussi, en effet, un facteur. Mais comme le contraire peut être juste aussi. C'est pour ça qu'on n'a pas, les éléments pour juger. Moi, je me dis plutôt non, mais pourquoi pas. ni oui, ni non, comme on dit.
Moi, je pense qu'il y a assez de vraisemblance.
Il y en a aussi assez, ouais.
Mais Pierre, ouais. Marc aurait écrit sous l'autorité de Pierre.
De Pierre, ouais.
Écrire aux Romains.
Voilà.
Matthieu a écrit pour les Juifs, Marc pour les Romains, Luc pour les païens, à Théophile. Et Luc était un peu sous la responsabilité de Paul.
Ouais, ouais.
Mais je pense qu'il y a... Ça peut être faux.
Il y a une logique, quoi. Il y a une logique. C'est pas illogique.
Mais la vraisemblance... Parce que Paul non plus, on ne l'a pas toujours appelé Saul après. Hein. On l'appelait plus que Paul.
Ouais, ouais.
Et puis Jean surnommé Marc, voilà. On l'a peut-être appelé Marc parce qu'il était chez les Grecs.
Ouais. Ça aussi, hein, alors, tout à fait. Ça, c'est aussi, c'est
moi,
aussi,
je pense plutôt dans ce sens-là, mais c'est l'autre sens. C'est comme tu as dit, il ne faut pas.
Moi, où je m'achappe un petit peu, c'est, mais je ne suis pas un érudit du grec, mais je sais que l'évangile de Marc, il est dans un grec très sommaire. Et puis, c'est là où je m'achappe un peu. Mais maintenant, c'est après.
On dit plutôt que c'est Jean qui a écrit dans un grec très, très simple.
Ah ouais, OK.
Ouais, avec beaucoup de conjonctions. Mais que Marc, écrivant sous la dictée de Pierre, sous l'autorité de Pierre, a peut-être écrit ce que Pierre disait.
Une version simplifiée. Ouais,
version simplifiée, ça parce que Pierre n'était pas un érudit, ouais, justement. Ouais, ouais. Et Marc voulait peut-être pas le corriger.
Oui, ouais, bien sûr.
Oui, j'ai déjà entendu ça aussi.
Oui, ouais, ouais, ça tient à peu.
Alors, les deux, on ne sait pas parce qu'on n'a pas de données assez précises. C'est comme l'épître aux Hébreux, on se chicane. On ne se chicane pas, mais on cherche depuis 2000 ans pour savoir qui a écrit l'épître aux Hébreux, mais on ne saura pas. On ne saura jamais. Au début, je penchais plutôt pour Paul. Mais une fois que j'avais fait le grec, j'ai dû réaliser que
il y avait trop de
différences. Alors, on ne saura pas.
Oui. Luther pensait à Paul. Oui, alors pas à Constant.
Là, on devrait savoir.
On aimerait savoir avant.
Ce qui est important, c'est que l'évangile de Marc, toutes ces épîtres, tout ça, c'est dans la Bible, et Dieu a conduit vraiment.
Voilà, moi, c'est ce qu'il faut penser. Alors, tout dernier, se dire ça.
Tout est inspiré, ça, voilà. Ça, c'est clair.
Même
ça,
s'il
ça
y a des erreurs et tout, on ne comprend pas tout, qui a fait ceci ou cela, pour qu'on l'a accepté ou pas. L'important, c'est vraiment ce qui est écrit dans la Bible.
Mais il n'y a pas un témoignage direct, en tout cas, d'une réconciliation entre Jean, surnommé Marc, et Paul. Donc voilà.
Mais, on le suppose, hein,
on le suppose.
Prends-le parce qu'il m'est utile pour le voilà. Que tu viens de lire.
Voilà, si c'est le même personnage, en effet.
Oui, si c'est le même personnage.
Là, on peut dire qu'il y a réconciliation. Suppose. Mais on n'a pas un témoignage direct. Donc on est dans des suppositions, mais ce qui tient, c'est la route au final. Ouais. Alors voilà. Comme je le disais avant, on n'entend plus tellement parler de Barnabas, hein, ou de manière un peu indirecte. Et puis, Paul va avoir des nouveaux collaborateurs, comme Silas, on a vu, hein, il part avec Silas, là, pour le deuxième voyage missionnaire, Priscille, Aquilas, et puis aussi un certain Timothée. Et c'est le troisième compagnon d'œuvre qu'on va étudier, et puis on terminera là-dessus, d'ailleurs, aussi, hein. Timothée, qui nous vient du grec Timothéos, la signification de son nom, c'est « qui adore ou honore Dieu ». Acte 16, verset 1. C'est donc Paul qui part, il est lors de son... C'est juste après le clash qu'il y a eu entre Barnabas et Paul, hein, si on revient un peu dans le contexte de l'histoire. Voilà ce qui arrive pour notre ami Paul. Il se rendit ensuite à Derbe, à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Hein. On voit que donc Timothée avait aussi une culture mixte, d'un père grec, mais d'une mère juive. Et puis, Paul va dire de Timothée, ça c'est un Timothée 1, verset 2, mais on ne va pas ouvrir, hein, « mon véritable enfant dans la foi ». Donc on peut s'imaginer, Paul disant ceci, que c'est peut-être même Paul qui a eu le plaisir d'amener Timothée au Seigneur. Hein? Que c'est suite en fait à son premier voyage missionnaire que Timothée a rencontré le Seigneur lors du premier voyage missionnaire de Paul. De Timothée 1, verset 5, ça on peut lire. On fait un petit gymkhana là sur les passages. Hein? Biblique. Alors, 2 Timothée 1, verset 5. 2 Timothée 1, verset 5. Et voici, voilà. Voilà ce que dit Paul. 2 Timothée 1, verset 5. Me rappelant, je lis verset 4, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habitait d'abord dans ton aïeul, Loïs, et dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Hein? Donc, la grand-maman de Timothée s'était convertie ainsi que la maman. Hein? Là, il nous est parlé de Loïs et Eunice. Donc, j'avais marqué quelque chose par rapport à ces prénoms, juste un petit au passage. Eunice, qui vient du grec eunike, béni par la victoire. Et Loïs, ah ben là, on ne sait pas trop d'où vient l'origine de ce prénom. Donc, c'est la mère et la grand-maman de Timothée, hein, qui se sont convertis. Hein, il y a eu, je pense, une conversion là, un peu en famille. Hein, c'est, on a des témoignages comme ça dans le livre des Actes, où il y a des familles entières qui se convertissent, qui se tournent vers le Seigneur. Et puis, comme on vient de le lire dans Actes 16, Paul va rencontrer à nouveau Timothée, hein. Et d'ailleurs, c'était un peu le but de ce deuxième voyage, c'était d'aller fortifier la foi des chrétiens qu'ils avaient rencontrés lors de leur premier voyage. Et puis, on peut se dire que là, il y a quand même un petit clin d'œil du Seigneur, parce que Paul va faire route, il sera à Lystre, se situe à 500 km d'Antioche, c'est quand même un petit bout de chemin. Et puis, il vient à peine se séparer de Barnabas et de Jean-Marc. Et ben, le Seigneur lui donne de rencontrer ce Timothée qui sera quelqu'un qui fidèlement va faire l'œuvre du Seigneur et où il y aura pas de clash entre Timothée et Paul. Il y a une œuvre qui va s'étendre vraiment sur, cette fois sur la durée. Hein. Et puis, on sait aussi que Paul va prendre Timothée dès qu'il le croisera à Lystre. Et on ne sait pas vraiment pour quelle raison il va le circoncire. Bizarre, hein, parce qu'il semblerait qu'à l'époque, l'Épître aux Galates était déjà écrite. « Ô Galates insensés, qui vous a fasciné, hein? » Il y a tout ce discours de Paul pour dire « Mais vous remettez les gens sous la loi, là, mais la loi, si vous êtes déchus de la grâce, si vous cherchez à vivre selon la loi. »
Il avait peut-être peur, je ne sais pas. C'est écrit à cause des Juifs, ici.
Voilà. Alors, bon, il était de mère juive. Est-ce qu'il a voulu faire respecter cette coutume-là pour le côté de la culture juive, du côté de la maman? D'autant que c'est plus étonnant parce que juste avant le deuxième voyage missionnaire, il y a eu quoi? Il y a eu le concile de Jérusalem. Et puis c'est durant ce concile-là qu'ils ont aussi décidé qu'en effet, la circoncision, ça ne devait pas être une pierre d'achoppement. Et puis Paul qui, voilà, alors je ne sais pas. Quelles sont les raisons? T'as une idée?
Certains pensent tout simplement que Paul étant libre. Mm. Il a dit, ce n'est pas la circoncision qui est quelque chose, ce n'est pas l'incirconcision quelque chose. Ce qui est important, c'est d'être une nouvelle créature. Alors, et puis comme il avait aussi un grand, tu l'as souligné aussi l'autre fois, qu'il avait vraiment un cœur pastoral. Et je crois que Paul ne voulait pas choquer, scandaliser les Juifs.
C'est ça. Hein.
Oui, c'est ça.
Alors il ne la circoncit pas pour une question de doctrine, mais pour une question pastorale, tout simplement. Pas que pour atteindre le plus possible de Juifs, je me suis fait tout à tous.
C'est ça, ouais.
Certains
théologiens pensent, commentateurs pensent comme ça, disant que c'était pour tout simplement pour ne pas choquer, ne pas scandaliser ses frères juifs. Parce que plus tard il prendra Tite aussi dans le temple, mais il le circoncira pas parce que il voulait montrer avec Tite par exemple qui était grec que ma foi il n'y a pas besoin d'être circoncis pour entrer dans le temple, mais que pour prendre vu que Timothée était à moitié juif,
dans cette situation là c'était
mieux
de
voulu,
faire ça
il a voulu apaiser les
les consciences, quoi.
Il a voulu apaiser les tensions et puis ne pas scandaliser.
Ouais.
Parce que comme tu viens de souligner aussi la conférence de Jérusalem, c'était dit ne soyez pas en scandale aux Juifs. Alors il a respecté aussi ça, je pense, les recommandations de Jacques. Mais je pense pas que c'était, en tout cas personnellement, je pense pas que c'était une question de doctrine. Hein.
Ouais, il faut parce voir ça sous un autre
Paul, angle. Oui, parce que Paul était trop sérieux, trop intelligent, enfin, je sais pas, il avait trop la responsabilité, il connaissait trop les conséquences d'une doctrine claire et nette, pour jouer au caméléon, il n'était pas hypocrite.
Mais... Ah, dans ce sens-là, ouais, aussi. Ouais. Mais il a montré de la sagesse aussi. Hein,
parce que c'était la sagesse pastorale. Ouais.
Ouais, parce qu'on dit qu'il était intransigeant, ben là on voit que non.
Oui, tout à fait.
Hein, c'est le témoignage inverse, là, quelque part. C'est un Paul qui a de la sagesse dans une circonstance donnée. Il tranche pas sur la doctrine, mais sur le côté pastoral, comme tu disais. C'est vrai que c'est intéressant. Et puis en effet, hein, ça c'est dans 1 Corinthiens 9, avec les Juifs, j'ai été comme un Juif afin de gagner les Juifs.
Oui, voilà.
Je me suis fait tout à tous. Hein. Ouais. C'est cette pensée-là aussi. Ouais. Alors notre ami Timothée, 2 Timothée 3, verset 15. On a une petite description de lui. 2 Timothée 3, verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Donc, on voit que notre ami Timothée, depuis son enfance aussi, il a baigné dans les Écritures. C'était quelqu'un qui est né dans une famille qui craignait Dieu. Et puis, on va voir que Timothée, malgré son jeune âge, va rapidement prendre du galon. Parce qu'il va être envoyé à Thessalonique afin de soutenir et encourager les églises de cette région. 1 Thessalonique 3, verset 2. Et là, on est seulement dans le deuxième voyage missionnaire. Donc, il y a vraiment l'amitié qui va être forte avec Paul et Timothée. Et puis, rapidement, Paul va donner des responsabilités alors qu'il est jeune, un homme jeune. Paul va rapidement donner des responsabilités à Timothée. Alors, 1 Thessaloniciens 3, verset 2. Nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. Hein? Et puis, Timothée va rejoindre notre ami Paul un peu plus tard, c'est toujours dans le courant du deuxième voyage missionnaire. Acte 18, verset 5. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Quand Silas et Timothée vont revenir de Macédoine, Paul va se donner entièrement dans le ministère de la parole. Et puis, lors du troisième voyage missionnaire, Paul envoie deux de ses aides en Macédoine. Acte 19, verset 22. Il envoya en Macédoine deux de ses aides, Timothée et Eraste, et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Hein? Donc on voit qu'il y a vraiment une confiance, il y a un ministère en commun. Et puis Paul délègue vraiment des responsabilités à Timothée alors qu'il était jeune dans la foi même. Hein. Il a la responsabilité d'aller fortifier les églises de Macédoine. C'est quand même pas rien parce que c'est des églises qui étaient au démarrage. Si tu envoies quelqu'un qui te fait un mauvais job, il te fait tout exploser, hein, pour causer comme aujourd'hui. Donc, c'était quand même une responsabilité de laisser partir ces deux, Timothée et Eraste, pour aller fortifier ces églises naissantes en Macédoine. Plus tard, et là on se situe après la première captivité de Paul à Rome, hein, donc une fois qu'il aura fini ses quatre voyages missionnaires, nous voyons que Timothée est responsable de l'église d'Éphèse. 1 Timothée 1, verset 3. 1 Timothée 1 Timothée 1, verset 3. 1 Timothée 1, 3. « Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines.
Oui, il devait y avoir des autres choses.
Il y avait
des environnements comme ça.
C'était déjà pas tout simple, hein, c'est sûr. Hein.
Les
faux enseignants, ils sont arrivés rapidement. Hein.
Ouais.
Un peu plus loin, 1 Timothée 4, verset 12. On voit que Timothée est encore jeune à ce moment-là. Hein. Pourtant, il s'est déjà passé. J'ai pas le décompte des années. Là, ce serait intéressant d'aller. J'ai pas pensé à regarder ça. Mais combien d'années s'est passé entre ce que Paul écrit ici à Timothée, alors qu'il était certainement en prison à Rome, et puis le temps entre le deuxième voyage missionnaire de Paul, où Timothée va commencer à œuvrer avec Paul, et puis ce passage-là, combien d'années, on pourrait regarder dans un tableau où on nous explique un peu la chronologie des voyages missionnaires, je ne sais pas combien d'années se passent, mais Paul dit quand même encore de Timothée, 1 Timothée 4, verset 12, « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Hein? » Donc, « Que personne ne méprise ta jeunesse. »
C'est écrit « jeune âge ».
Voilà.
Donc, il ne devait pas être passé énormément de temps pour qu'il puisse faire une phrase comme ça.
Ouais, j'ai pas la chronologie du tout en tête, mais il y a eu quand même quelques années. Mais Timothée a commencé jeune.
Oui.
À servir le Seigneur. Hein. Et on voit aujourd'hui, il y a des personnes jeunes que Dieu lève. Et gloire à Dieu, qui vont tracer pour le royaume de Dieu. Hein. Nous voyons encore quelques qualités de Timothée citées par Paul dans 1 Corinthiens. Et là, 1 Corinthiens a été écrit durant le troisième voyage de notre ami Paul, 1 Corinthiens 4. On arrive bientôt au bout de notre gymkhana, là. 1 Corinthiens 4, verset 17. Pour cela, 1 Corinthiens 4, verset 17. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Mon enfant bien-aimé est fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. On voit que Timothée a passé du temps à aussi écouter les enseignements de l'apôtre Paul. C'était quelqu'un qui construisait pas sur le vide, mais il construisait, il cherchait vraiment à construire sur le Seigneur. 1 Corinthiens 16, hein, parce qu'en fait, pauvre Timothée, il a quand même été envoyé dans des situations aussi pas toutes faciles. L'église aux Corinthiens, c'est l'église typique du désordre. Hein. Une église qui se disait très spirituelle, mais qui vivait dans un désordre pas possible et qui était en tension à un moment donné avec l'apôtre Paul de manière assez forte. Donc, Timothée a dû aussi aller travailler dans cette église-là. Pas facile hein, d'être envoyé dans une œuvre comme celle-ci. C'est pas peut-être là où on a envie d'aller en étant jeune d'âge. 1 Corinthiens 16. Verset 10. Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, hein, ben le pauvre, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Que personne donc ne le méprise, accompagnez-le en paix, afin qu'il vienne vers moi, car je l'attends avec les frères. Et puis, plus tard, il y a ce passage-là qu'on connaît assez, et c'est le dernier passage biblique qu'on va lire ce soir, de Timothée. 2 Timothée 1, les versets 6 et 7. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, on peut s'imaginer là tout ce qu'avait dû aussi endurer Timothée. Pas toujours facile hein, dans le ministère. Et puis, Paul qui s'inquiète de son enfant dans la foi. Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Hein, on peut se dire que oui, Timothée, des fois, il a dû passer dans la moulinette. Hein. Je ne sais pas s'il y en avait à l'époque. Mais spirituellement, il y en avait en tout cas. Je t'encourage, hein. Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est intéressant de se dire que, parce que souvent, alors oui, d'un côté, on voit que Timothée peut-être encore souffre un peu de timidité à cette époque-là, de voir que ce n'était pas un super-héros, hein, que Dieu utilise des gens aussi timides pour son œuvre. Mais c'est aussi intéressant de voir un petit peu le contexte de tout ceci. Ça devait être certainement lié à une souffrance aussi de son ministère, parce que Timothée en avait déjà reçu deux, trois coups de gourdin sur la tête. Et puis Paul l'encourage, ranime le don qui est en toi. Il y a quelque chose du Seigneur. Vas-y, va de l'avant, prends courage. Alors, conclusion. Nous voyons qu'au travers de la vie de Paul, mais aussi de ses trois compagnons missionnaires, leurs connaissances intellectuelles et parfois leurs longues études des Écritures ont été importantes afin d'être des outils utiles entre les mains du Seigneur pour apporter l'Évangile au près comme au loin. Ce qui a fait la différence entre un Paul, un Timothée et un Barnabas, et un Jean-Marc hein, peut-être, c'est leur fidélité à Dieu et leur vie axée en priorité sur Christ, en cherchant à faire la volonté du Père. Que Dieu nous aide également à avoir un tel amour de lui, de sa parole et de nos frères et sœurs. En effet, hein, ils en ont connu, parce que ces voyages missionnaires n'ont pas été tout faciles. On n'a pas été dans les détails, parce que c'est beaucoup trop important le contenu. Mais... les voyages missionnaires, le suivi des églises, c'était loin de tout repos, même au temps de l'église primitive. Des fois, on idéalise l'église primitive, on dit on veut retourner à l'église, au modèle de l'église primitive. Alors oui, c'est juste, mais il faut savoir que ce n'était pas tout facile non plus aussi à l'époque, hein, que les chrétiens les premiers chrétiens, bon, bien sûr, ont en plus vécu aussi de fortes persécutions.
Ouais, on voit que
souvent l'annonce de l'évangile, ça restait pas neutre. Hein. Bon, comme de certains pays aujourd'hui, hein, suivant où vous allez annoncer l'évangile, oui. Hein, c'est chaud, chaud aussi. Hein. Donc voilà, moi j'en ai fini pour ce soir, mais je trouvais assez intéressant d'aborder ces quatre personnages. Et puis, j'espère que ça aura aussi été le cas pour vous. Et puis, on n'a pas réponse à tout, mais voilà, je trouvais intéressant de s'arrêter un petit moment sur ces compagnons, de voir un peu leur parcours, leurs origines, leurs défis. Et que pour Paul, pourtant, ça devait être un très bon leader. Hein. Des fois, c'était aussi le leadership est aussi des fois dur à gérer.
Puis moi j'ai une question. Bon, j'ai compris qu'ils en faisaient des collectes, hein, mais ils ont fait des déplacements, bon, en mer, en bateau, mais sur le terrain.
Ah, aussi, hein,
ils se déplaçaient fait... comment?
À pied.
À pied?
À pied? À vous bien. Avez vu les guilles?
Ah, ouais, ah, bah oui, mais.
L'apôtre Paul a fait 40 000 km à pied, à cheval et en bateau. Durant les 30 années de son ministère.
Voilà, ils ont compté ça. Ah, okay.
40 000 km.
40 quelques. Ouais, quelqu'un a calculé.
Ah ouais.
C'est pas moi hein, qui ai calculé, mais.
Ah, c'est conséquent.
Quelqu'un a calculé. Environ une fois le tour de la Terre, soit à pied, soit en bateau, y compris les voyages en bateau, soit à cheval.
À cheval. Quand il se chicane et qu'il retourne en arrière, mais t'as
pour l'époque, c'est énorme, hein, en 30 ans.
C'était des bons marcheurs.
Hein. Oh. Et puis, je ne sais pas s'ils ont compté que peut-être qu'il est allé en Espagne, mais ça on ne sait pas. Il n'y a pas de source
assez. Il est contraire de moi. Moi, juste les pantoufles.
Ah, c'était. Oui, ils ont eu des défis. Hein.
Mais c'était des êtres persévérants. Hein. Maintenant, on râle pour en mettre des trucs. Pour se déplacer, il faut faire tout en bagnole.
Ils étaient exercés, pas comme nous. Hein.
Oui, c'est ça. Ils n'avaient pas d'autres moyens.
Dans un cocon, et puis par rapport à ces choses. Mais si vous prenez les gens, les paysans de montagne, ou bien les gens de montagne et tout ça, ou bien les sportifs, mais à l'époque, hein, t'es d'accord, ils connaissaient pas d'autre chose. Hein. Chameau pour dans le désert, le cheval en Turquie, et puis l'âne ou un mulet, ou je ne sais pas, chez les Romains. Puis peut-être de temps en temps sur un chariot, j'en sais rien. Mais quelqu'un a calculé tous ces voyages, aller-retour, un voyage, deux voyages. Et puis quand même, tous ces 10 ans en Cilicie, en Syrie, en Cilicie, là-bas, on fait des cubes.
On a qu'il faut depuis Rome jusque là, un avion.
Ah, mais c'est sûr que les voyages, ben, des fois, c'était des longs périples, hein. C'est clair, hein. C'est comme les premiers voyages missionnaires en Chine, là, par le fameux missionnaire. Là,
Hudson Taylor.
Voilà, Taylor, tout son nom qui me zippe. Oh là là, hein. C'était pas avec des paquebots d'aujourd'hui, hein. C'était à voile et à vapeur, hein, comme on dit, là, des fois. C'était des défis. Hein. Il a failli passer d'ailleurs plusieurs fois. Hein, dans ces...
C'est pour ça que des fois, il déchargeait ce qu'il y avait dans le bateau pour pouvoir être...
Alléger le bateau. Hein. Ouais. Mais c'était aussi une époque, c'était le bon moment, parce qu'il y avait la Pax Romana là, qui permettait aux jeunes quand même de voyager, de faire ces longues distances. Ça a permis aussi à ce que l'Évangile puisse se répandre plus rapidement. Hein.
Les routes.
Voilà, ouais.
Les voies romaines. Hein.
Mais les voies romaines, elles étaient. C'était pas du super praticable non plus. Hein. Faut pas vous imaginer les autoroutes d'aujourd'hui. Hein. C'était quand il y avait les pavés, oui, mais dans les grandes villes.
Grandes distances.
Entre deux, il y avait par endroit, oui, mais souvent on était plutôt dans des pistes. Quoi. On retrouve hein, des voies romaines encore aujourd'hui. Moi, j'en ai vu en France, là. Mais où elles étaient en dur, c'était des fois aussi en lien avec des carrières, des choses comme ça. Mais la grande partie n'était pas pavée. C'était encore des chemins qui voulaient dire que quand la pluie venait, ils n'avaient pas des chaussures en Gore-Tex, quoi. Hein.
C'est sûr.
Alors, je mets stop.